et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débat Amcamgram où on va prendre de la hauteur sur l'organisation du portefeuille AM. Au fil des épisodes Amcamgram, on l'a vu sous un même intitulé de poste, on a vu des account managers amenés à gérer des portefeuilles très disparates les uns des autres. C'est pourquoi aujourd'hui on va aborder le sujet de la taille du portefeuille client. À savoir, est-ce qu'il vaut mieux avoir un large portefeuille constitué de petits comptes ou au contraire avoir un portefeuille restreint avec des gros clients à l'intérieur? Certains diront, c'est pas la taille qui compte. Donc, pour le vérifier, je vais avoir deux points de vue à côté de moi puisque j'ai invité deux virtuoses de la relation client. Tout d'abord, Lucie, toi tu es Global Key Partner Manager depuis presque 3 ans chez PrestaShop. On te connaît déjà, Lucie, puisque tu es passée sur l'épisode 5 du podcast. Donc, ça date un petit peu. Merci encore de m'avoir fait confiance dès le début. Et toi, étant donné que tu gères un portefeuille de moins de 10 clients, même si, bon, il représente plus de 3 millions d'euros, j'ai tout de suite pensé à toi pour ce débat. Donc, merci beaucoup de revenir au micro de Amcamgram. Mathieu, toi, tu es Lead Account Manager et tu travailles depuis plus de 3 ans chez Mano Mano. Je salue au passage Albin qui t'a chaudement recommandé. Tu es en charge d'un portefeuille pléthorique de plus de 800 comptes SMB, donc j'ai hâte que tu nous en parles. Je vous laisse à présent vous présenter.
Super, ben merci pour l'introduction. Donc effectivement, je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans et je suis Global Partner Manager depuis plus de 2 ans et demi maintenant chez PrestaShop, qui est un des leaders européens du e-commerce. Et je gère nos 7 plus gros partenaires, qui sont PayPal, Stripe, Adyen, Mailchimp, DHL, Criteo et 1&1, et qui génèrent effectivement la moitié du chiffre d'affaires de l'équipe partenariat.
Top. Et quel est ton plat détesté, Lucie?
Ah, mon plat détesté? Moi, j'adore manger. Alors franchement, un plat détesté, ça serait très, très difficile à trouver. J'aime tout, sauf les endives.
Ah ouais, comme quoi. Ouais. Top, ben merci beaucoup Mathieu.
Ouais, de mon côté, donc c'est Mathieu, j'ai 28 ans. Avant d'intégrer Mano Mano, du coup, j'ai commencé en finance, j'ai fait un tour dans une fintech à Barcelone avant de revenir à Paris et intégrer du coup Mano Mano au poste de Key Account Manager, donc tu l'as dit, en 2017. Et donc depuis janvier 2020, là, j'ai monté l'équipe, donc Seller Account Management en France. Aujourd'hui, on est 3 et on s'occupe de 800 marchands, donc contrairement à Lucie, je ne vais pas pouvoir tous les citer.
Et ton plat détesté?
Et mon plat détesté, ben, un peu comme Lucie, du coup, j'ai un aliment détesté qui serait le céleri, mais sinon, je n'ai pas de plat en particulier que je déteste.
Ouais, céleri et endive, c'est un peu pareil en soi.
Ouais, je pense qu'on se retrouve un peu là-dessus.
Bon, et ben, j'enchaîne sans plus tarder pour aborder la question des portefeuilles clients et leurs avantages et leurs inconvénients en fonction de leur taille. Donc, ma première question, je vais commencer par une citation de Jean de La Roche-Brochard que j'ai spotée dans un podcast. Alors, c'est pas encore un philosophe, mais peut-être que ça le deviendra. Il a dit « Quand on gère un portefeuille de 800 clients, on est mieux nourri que quiconque sur le marché ». Du coup, Mathieu, je commence par toi. Est-ce que le fait d'être en contact avec plus de 800 partenaires te permet d'avoir effectivement cette vision XXL sur ton secteur d'activité? Et plus largement, est-ce que tu peux nous décrire les avantages d'avoir un si grand portefeuille?
Ouais, carrément. Très belle citation d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, avoir beaucoup de partenaires, beaucoup d'accounts, ça permet d'avoir donc pas forcément un contact avec beaucoup de ces partenaires. Dans mon équipe, on n'est pas spécialisé par catégorie, par exemple, donc on est très polyvalent et finalement c'est ce qui nous permet aussi de rester à l'écoute du marché et de nos partenaires. Et je pense que du coup le niveau d'information, il peut s'établir au niveau global donc au niveau marché, mais aussi au niveau seller finalement. On a accès à beaucoup de marchands de différents types, avec différentes habitudes, différents process, et ça nous permet aussi de définir et de connaître en fait un seller type. Et donc l'avantage que je peux voir de mon côté, c'est que on va pouvoir faire remonter les infos en interne. Donc par exemple, sur l'amélioration du produit, on va pouvoir récolter des feedbacks assez rapidement et de façon assez massive. Et le fait justement de représenter beaucoup de marchands, ça va aussi nous donner du poids et ça va donner de la crédibilité à ces infos. Et dernier avantage, c'est que en tant qu'account manager, je trouve ça hyper intéressant aussi parce qu'on peut du coup tester nos process, tester leur adoption à grande échelle pour éventuellement faire du fine-tuning sur les process pour arriver à quelque chose qui a le plus d'impact possible, quoi. Après, j'ai un désavantage, ce serait que du coup, vu qu'on a accès à beaucoup d'infos, il faut aussi savoir la traiter, éventuellement la prioriser, recouper avec d'autres sources pour pouvoir faire remonter les remarques les plus pertinentes, quoi.
Moi, je me retrouve dans ce que tu dis concernant les informations, même si les miennes ne viennent pas de multiples sources, mais on va dire de sources experts, parce que je considère que mes partenaires sont un peu les leaders du marché et donc qu'ils ont normalement un niveau d'information qui est de qualité, qui rend justement l'information crédible, comme tu disais. Et mon rôle, c'est vraiment d'être leur voix chez PrestaShop. Et j'ai peut-être quelque chose que tu me diras si tu as, Mathieu, toi, avec tes 800 comptes, mais c'est une vision peut-être plus long terme des choses que je peux faire avec ces 7 comptes ultra qualifiés, parce qu'on se parle toutes les semaines, parce qu'on ne parle pas seulement de choses opérationnelles, mais aussi vraiment de projets stratégiques, vision 2025, c'est notre quotidien. Et on va parler de développement de nouveaux services qui vont mettre des mois à voir le jour. On va parler de projets qui seront réalisés peut-être en juin 2021 avec une extension à l'international. Voilà, donc j'ai beaucoup d'informations aussi, mais peut-être à traiter à un niveau plus long terme. Et peut-être moins de process que toi, dans le sens où l'investissement que je vais passer avec chacun de mes partenaires sera plus custom, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs enjeux, en fonction de leur investissement, de leur engagement dans notre partenariat, et aussi en fonction tout simplement de la saisonnalité à la fois contractuelle et à la fois de leur business, quoi. Et si je peux conclure là-dessus, je dirais que l'avantage aussi d'avoir un nombre très restreint de comptes, c'est que je peux vraiment avoir une relation proche avec eux et créer de la confiance. Ce qui fait que lorsque j'ai leur confiance et que je leur propose quelque chose, normalement, j'ai un oui tout de suite, direct.
Donc si, Lucie, je rebondis sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses que le fait d'avoir un portefeuille restreint te permet de nouer une relation avec davantage de confiance pour chacun de tes clients ?
Je pense que oui. Ça me permet vraiment de les connaître en profondeur, de connaître leur société, de connaître leur background personnel à eux, à mes points de contact. Ce qui fait que lorsque je vais leur présenter les choses, j'aurai aussi bien la vision antérieure et, que postérieure de notre relation de partenariat. Et normalement, je dois pouvoir être à même de leur présenter les choses sous un angle qui fait qu'ils doivent me dire oui. Donc, je pense que j'ai un meilleur taux de transfo. Mais Mathieu, tu vas me dire.
Ouais, du coup, moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça. En fait, là, je pense que quand on parle de confiance, d'adhésion des accounts à ce qu'on peut leur proposer, donc de taux de transfo, je pense qu'en fait, on parle plutôt de qualité de la relation. En fait, je pense qu'on peut générer de l'adhésion de manière assez différente et finalement assez rapidement, justement en créant une relation de qualité. Et je pense que ça passe principalement par de la cohérence dans ce qu'on peut proposer à nos sellers. Par exemple, sur mon pool de 800 sellers chez Mano Mano, on a forcément des services qu'on va pouvoir aller leur vendre, des choses qu'on va mettre en place avec eux. Le tout, c'est pas de contacter tous mes marchands parce que je dois atteindre cet objectif, mais plutôt d'essayer en amont de détecter justement les marchands avec qui ça peut matcher et avec qui on est sûr finalement d'avoir un taux de transformation intéressant parce que le service leur correspond. Donc en fait, je pense que le tout, c'est de proposer les bons services au bon moment et au bon partenaire.
Un exemple concret, Mathieu ?
Par exemple, ça peut être sur du service logistique. On a monté Manu Fulfillment il y a 2 ans maintenant. Et donc, on essaye de vendre ce service à nos marchands, en tout cas les marchands qui peuvent en avoir besoin. Donc, typiquement, un seller qui va avoir une logistique impeccable, qui va avoir un entrepôt qui tourne bien et qui est quali en termes de livraison et de livraison client, pour le coup, on va pas forcément aller chercher ce marchand en priorité pour ce service-là. En revanche, un marchand où on détecte justement qu'il peut y avoir des problèmes de qualité, qu'il peut y avoir des problèmes de livraison, c'est ce marchand-là qu'on va aller chercher en priorité, par exemple. Du coup, ça demande de connaître ces marchands, donc connaître ses partenaires. Et du coup, là, effectivement, quand il y a un plus petit pool, c'est plus facile, mais je pense qu'avec un peu d'écoute et de la disponibilité, en fait, on peut générer de la confiance et de l'adhésion assez rapidement. Et pour le coup, chez Mano Mano, nous, c'est vraiment un élément différenciant, ce facteur humain, le fait qu'on est toujours disponible pour nos marchands, qui est quelqu'un derrière le téléphone, hein, tout simplement, versus ce que peuvent expérimenter les sellers sur d'autres marketplaces. Pour le coup, ils savent que chez Mano Mano, il y aura toujours quelqu'un pour leur répondre, quoi.
Ouais, chez PrestaShop, le côté humain, il est très important aussi. Tous nos partenaires ont un contact, du plus petit au plus gros. Et c'est vrai que les relations qu'on peut lier avec eux, moi, sur mon poste, vont être peut-être parfois à la limite d'une relation personnelle, parce que encore plus avec le confinement qu'on a vécu, je connais l'appartement de mes partenaires, j'ai vu leurs enfants en visio, on s'est tous vus en pyjama, enfin voilà, c'est une relation limite personnelle qu'on crée, enfin que moi je crée avec eux, et qui fait que ça peut être compliqué pour moi parfois, par exemple lors de négociations, renouvellement de contrat, il y a peut-être un peu d'affect qui va rentrer en jeu et ce qui n'est pas bon, quoi. Et idem, dans mon portefeuille, je vais avoir 3 acteurs leaders du paiement, PayPal, Stripe et Adyen, qui se tirent la bourre sur des marchés qui sont concurrents, clairement. C'est un peu spécial pour moi, voilà, de m'entendre bien avec les 3, d'avoir des projets très distincts avec les 3 partenaires, et de garder ce côté, ce recul, et de rester un peu, de pas violer toute confidentialité ou de pas dévoiler des choses que les autres sont en train de faire, tout en me disant que, quoi qu'il en soit, un peu de transparence, c'est bénéfique à tous. C'est vrai que ce côté humain peut parfois être un peu délicat à gérer.
Complètement. Mais c'est intéressant parce que je me retrouve un petit peu dans ce que vous dites. Lorsque, par exemple, à l'époque, chez La Fourchette, je devais faire des opérations, mettons, de promotion sur mon portefeuille. Donc moi, c'était un peu sur le modèle de Mathieu. J'avais plutôt 800 comptes que 7 comptes. Et en fait, vous avez parlé tout à l'heure de taux de transfo. Et quand j'appelais un restaurateur et qu'il me disait « Non, je ne veux pas, par exemple, mettre une promo pour l'opération commerciale », je me disais « Next », en fait. Alors que toi, Lucie, comme tu dis, effectivement, vu que tu as peu de partenaires, il faut que tu sois sûre des projets que tu leur proposes. Et ça, c'est une vraie force aussi. Et ça me permet aussi d'enchaîner dans le sens où là, à la lumière de ce que vous venez de me dire, je pense qu'il y a un vrai état d'esprit à avoir et des compétences que vous avez décrites qui sont un peu différentes, je trouve, selon les portefeuilles. Toi, Mathieu, tu as dit que tu devais être hyper organisé pour faire le tri entre toutes les infos qui te remontent, que tu dois faire évidemment assurer de la quantité, mais aussi être à l'écoute de chacun de tes partenaires. Et toi, Lucie, tu dois être hyper attentive aux moindres détails, si je comprends bien.
Moi, c'est vrai que de mon côté, je dois quand même être organisée et avoir un suivi de mes comptes hyper précis, dans le sens où, vu que je mets énormément d'actions en place avec eux, c'est très rapide de se perdre. En revanche, c'est vrai que je vais être plus dans le custom et que si je fais une boulette ou alors s'il se passe quelque chose complètement indépendant de ma volonté et que je perds un compte, c'est la cata pour moi et ça a des gros impacts sur la boîte aussi.
Ouais, pour le coup, je vois ce que tu dis, ce que tu veux dire, Lucie, sur l'organisation. Nous, pour le coup, on peut être parfois beaucoup sollicité, donc effectivement, on a besoin d'être très organisé. Et en fait, le plus gros risque avec un gros portefeuille, c'est de se perdre dans des contacts ou des actions finalement avec peu de valeur ajoutée. Donc effectivement, faut vraiment savoir organiser son temps et bien le délimiter. Dans mon équipe, on essaie aussi de se reposer au maximum sur la donnée. Et ce qui est cool avec le e-commerce, c'est qu'on a accès à beaucoup de données. Donc en fait, avant de prendre toute décision, on va se baser vraiment sur de l'analyse factuelle de chiffres, que ce soit pour de l'account management pur, donc de l'amélioration de comptes, ou du coup de la vente de nouveaux services. Il y a vraiment un travail analytique en amont. Et du coup, toi, Lucie, tu as parlé de custom. Et pour le coup, nous, on ne peut pas vraiment se baser sur du custom et éventuellement du feeling avec nos marchands. On est vraiment obligé de prioriser et de se baser sur des choses très factuelles. Et le dernier point, du coup, c'est d'automatiser un max, ouais, carrément, parce que 800 marchands, le but, c'est d'avoir le moins d'actions manuelles possibles, que tout soit automatisé le plus possible, de mettre en place les bons dashboards, de l'alerting, éventuellement un système de tickets qu'on a mis en place. Donc mine de rien, il faut être aussi assez créatif en fait dans ce qu'on met en place, et toujours avoir en tête d'essayer de réduire ce qui nous prend le plus de temps, quoi.
Et donc tu vas faire quoi avec le découpage du portefeuille? Ça va se traduire de quelle façon chez toi?
Ouais, chez moi, en fait, on a un portefeuille dont on va s'occuper de façon proactive. Donc, ça va être en fait les marchands qu'on a détectés comme étant les plus importants, ou alors ceux avec le plus de potentiel, parce que le but, c'est quand même de les passer du coup chez les CAM, ou en tout cas qu'ils atteignent le niveau des CAM, justement. Et le reste du portefeuille, il va être géré plutôt de façon réactive. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de ces marchands. Comme on l'a dit, on leur assure un contact et une disponibilité s'ils nous sollicitent. Mais ça veut dire qu'on va les contacter éventuellement pour des projets, pour leur vendre des services. Mais sinon, pour tout ce qui est en fait, leur expérience de vente sur Mano Mano et leur vie sur Mano Mano, c'est eux qui vont nous contacter si jamais ils ont des besoins. Et bien sûr, nous, on leur répond. Mais en tout cas, on a pris le parti de découper le portefeuille comme ça, parce que de toute façon, trois account managers pour 800 marchands, c'est humainement impossible de tous les gérer proactivement, quoi.
Oui, bien sûr. Mais ce qui est chouette, c'est que voilà, comme tu as beaucoup de volume d'informations, tu peux te dire, bah tiens, j'ai vu que sur tel volume de clients, telle stratégie marchait hyper bien, donc je vais peut-être pouvoir la répliquer, ou je vais peut-être pouvoir utiliser les bonnes pratiques, ce qui a marché sur, comme tu disais, un marchand d'une telle typologie, pour aller proposer la même solution proactive aux autres marchands qui ont le même profil. Alors que si je fais un peu le point sur ce que vous avez dit, par exemple, toi, Lucie, vu que tu as les concurrents dans ton portefeuille, potentiellement, ça veut dire que si tu vas faire une action avec l'un, bah, les autres ne peuvent pas te dire non, parce que si c'est un truc qui a marché, il faut absolument qu'il soit sur le créneau aussi.
C'est un peu ça, pour le coup. Le fait est que, par exemple, chaque année, on organise le PrestaShop Day, qui est censé être un événement physique qui, cette année, était en ligne. Tous nos partenaires de nos paiements nous suivent. Parce qu'effectivement, si Stripe participe, bah, il faut que PayPal soit là. Bon, je caricature, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Et inversement, on est une équipe. Donc, tout comme Mathieu disait que je suppose qu'il a des outils qui lui permettent voilà, de flaguer un peu les comptes comme étant appétants à telle ou telle chose, ou en tout cas de les catégoriser. Nous, dans la team, si un autre partenaire manager met en place une action pour un de ses partenaires qui est successful, on va tous la répliquer aussi, tout en l'adaptant au profil de notre partenaire.
Bah, tu me fais une excellente transition parce que tu as parlé un petit peu de physique versus pas possible en temps de Covid. Du coup, je veux bien savoir un peu comment est-ce que vous, en fonction de la typologie du portefeuille que vous gérez, quels ont été en fait les impacts majeurs du Covid et comment est-ce que vous gérez la crise actuelle en fait parmi vos comptes?
Bah, clairement là sur le e-commerce, on a vraiment décollé en termes de volume de vente. Et du coup, c'est vrai pour le premier confinement et le deuxième. En tout cas, nous, on a essayé d'être vraiment proactif, de prendre contact avec nos partenaires, parce que bah, du coup, c'est une situation inédite pour eux, mais pour nous aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de leur accorder du temps, être à leur écoute, prendre la température, voilà comment vos équipes, est-ce que tout tourne opérationnellement chez vous, comment est-ce que vous voyez les semaines à venir, et essayer de prendre de l'info aussi, on en revient au premier point, et puis c'est aussi leur essayer d'être le plus proactif possible, les avertir sur d'éventuels problèmes avec des transporteurs avec qui on est en contact, donc par exemple on a eu des cas de transporteurs qui arrêtent de livrer tel ou tel département. Ben, on va du coup essayer de prévenir nos marchands qui travaillent avec ces transporteurs pour leur dire ben, attention, du coup, ce transporteur va arrêter de livrer. Nous, on travaille avec d'autres transporteurs. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette en relation, par exemple? Donc, c'est vraiment. On a essayé en tout cas de lâcher un peu les process automatisés pour un temps. Et vraiment d'être en support, leur apporter une écoute et voilà les aider à maintenir le business coûte que coûte quoi.
Ça, c'est par téléphone.
Du coup, ouais, ça se fait plutôt par téléphone, effectivement.
Ah ouais, donc t'enchaînes quoi.
Ouais, exactement. Bon, après, j'ai pas eu les 800, hein, mais
Pas encore.
ouais, l'idée c'est d'essayer de en tout cas leur faire comprendre qu'on est encore plus disponible que d'habitude, quoi.
Ouais, alors que nous, chez PrestaShop, on est 100 personnes et on va dire que durant la première vague de confinement au niveau de la boîte, on s'est concentré à mettre en place des squads qui bossaient sur du contenu qu'on allait mettre à disposition de nos clients, on va dire finaux, donc nos marchands, nos utilisateurs. Donc c'était beaucoup de contenu parce qu'on ne pouvait pas passer du temps à tous les appeler justement. On n'a pas d'équipe pour.
Et
On
c'est
a
quoi
mis.
comme contenu, par exemple?
C'est vraiment du contenu enfin, éducatif, information, comme vous cherchez justement une solution pour qui livre en temps de Covid. Voilà, on a écrit un article de blog qui répertorie et qui est mis à jour tous les livreurs en fonction de votre zone géographique qui opère. Idem, vous voulez passer en ligne, bah voilà, nous, PrestaShop, on a créé une offre un peu package et on vous accompagne pour le développement de votre boutique en ligne parce que jusqu'à présent, vous n'en aviez pas. Mais bon, à notre mesure, dans le sens où on a un support, bien sûr, mais notre support, par exemple, interne chez PrestaShop, c'est 5 personnes. On a 300 000 clients dans le monde, enfin voilà, on a eu un boom pendant le Covid, les 5 personnes ne peuvent pas aider la Terre entière. Donc c'était beaucoup, beaucoup de contenu mis à disposition sur notre site, sur des blogs partenaires, avec l'aide du gouvernement aussi, enfin voilà. donc beaucoup de contenu à disposition que de prise de contact physique, on va dire. Et moi, avec mes partenaires, ça a été un peu un chamboulement parce que je travaille avec des sociétés qui sont énormes. Et chez eux, tout est prévu 1 000 ans à l'avance. Donc, avoir ce genre d'événement, ça force la proactivité et ça change un peu leur process, on va dire. Donc, il y en a certains qui ont été hyper réactifs. Je pense à PayPal, qui nous a accompagnés dans plein d'initiatives. Qui a sponsorisé par exemple le pack qu'on mettait à disposition des marchands qui voulaient débuter, qui nous a accompagnés dans des communications, enfin, plein de choses, et d'autres partenaires pour qui ça a été plus long à mettre en place parce que leur structure interne n'était pas prête à gérer ce genre de crise, quoi. Et donc vers qui j'ai été plus, moi, force de proposition. Accompagnez-nous dans telle communication, je pense à MailChimp, on va faire un emailing dédié aux plateformes marketing et justement d'emailing, faudrait que vous soyez présente dedans, pondez-moi 3 lignes pour expliquer ce que vous faites et c'est bon, ce sera, je fais le reste, mais voilà, fallait être un peu créatif.
Ok, mais c'est cool de parler de marchands débutants. Enfin, je trouve que en tant qu'account manager, en fait, c'est assez, je trouve ça assez gratifiant, mine de rien, de se rendre compte en fait qu'on peut aussi servir a priori des business qui sont à la base plutôt physiques et qui passent sur du 100% e-commerce. Et du coup, ça leur permet de maintenir leur business à flot. En tout cas, je trouve qu'en tant qu'account manager chez Manu Manu, nous, ça a aussi donné beaucoup de sens à ce qu'on pouvait faire et aux services qu'on pouvait rendre à nos marchands.
Ouais, totalement. Chez nous, c'était pareil. Tout le monde était très investi et on n'a pas compté nos heures dans cette période-là pour faire en sorte de délivrer et d'aider les gens qui étaient dans le besoin. Ouais.
Donc, apporter de la valeur, montrer qu'on est à leur côté, prendre de leurs nouvelles. J'ai bien noté toutes les bonnes pratiques. Donc, qu'on gère un portefeuille de 7 clients ou qu'on gère un portefeuille de 800 clients, on retrouve la même empathie, le même souci de bien faire. Et je pense que c'est ça qui compte, mine de rien.
Yes.
Top. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a pu réconcilier les deux modèles qui existent. Extrêmes finalement, donc ça c'est chouette. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Lucie d'avoir participé. Je sais pas si vous avez un petit mot de la fin.
Non, merci beaucoup, à toutes les deux, c'était très cool comme expérience.
Ouais, et merci à toi Darina d'organiser ce fight qui n'en a pas été un, mais
ouais, au début, parce qu'on n'était pas en fait. Je suis pas d'accord avec, je me suis dit ah enfin, et puis après je rejoins, bon ok. Non, mais tout est bien qui finit bien, donc merci de nous avoir donné vos lumières, vos expertises, et je pense que chaque auditeur pourra se reconnaître dans l'un ou l'autre modèle, et ce qui compte finalement c'est comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je fais avancer mon portefeuille et comment je suis aussi agile et réactif en cas de crise. Voilà, je vous dis à très vite à tous les deux. Ciao.
Salut, ciao.
Ciao. Suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down?